Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie, bonsoir Théo.
Bonsoir.
Moi, je suis encore une fois ravie. C'est tous les mardis la même chose, mais mardi, ravie. ça va bien. Ça va bien avec les trois nouvelles recettes ce soir. Donc, vous allez voir, comme à l'habitude, j'essaye de trouver des recettes qui sont simples, rapides, faciles à réaliser. On va récapituler un petit peu les ingrédients et les recettes. Aujourd'hui, on va avoir le muffin de thône. Je trouvais que c'était bien approprié parce que même si aujourd'hui on a un grand soleil, on sent bien que la température a baissé. Ensuite, on parlera de la daube de thon à la tomate. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément de faire, mais qui est excellent. Et aussi bien pour le corps que pour les papilles gustatives. Et puis on finira par quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire non plus, ce sont des pêches de vigne au sirop de verveine. C'est une grande récolte actuellement, puisque la verveine, on peut la trouver dans tous les jardins. Voilà, je vous expliquerai un petit peu comment on fait cette pêche de vigne. Alors, pour les muffins d'automne, on va avoir besoin de carottes, une carotte, un poireau, de deux échalotes, de 100 g de beurre, 10 cl de lait tiède, deux œufs, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-sachet de levure chimique, 120 g de farine, 5 cl d'huile d'olive, une cuillère à soupe de parmesan et évidemment du sel et du poivre.
C'est 3 cuillères à soupe, c'est ça, de parmesan?
Et j'ai dit quoi?
Une, je crois.
Oh oui, alors c'est 3. Et c'est mieux 3 que 1. Côté ingrédients, merci Nathalie de me reprendre quand je fais des erreurs. En niveau ingrédients, on va avoir besoin d'un couteau, d'un économe, d'une râpe, d'une poêle, d'une casserole, d'une cuillère en bois, de deux saladiers et d'un fouet et de 6 moules à muffins comme à l'habitude, moi j'aime bien prendre des cassolettes en papier parce que ça se tient bien. Et puis, j'ai pas à me soucier si j'ai des moules qui correspondent. Voilà. Pour ce qui est de la daube de thon à la tomate, on va avoir besoin de 1,2 kg de chair de thon frais. J'espère que vous l'avez trouvé chez votre poissonnier. En ce moment, c'est aussi la saison du thon, on va en trouver. C'est un poisson qui est une chair rouge, rouge un peu noir. Maintenant, la daube de thon, vous pouvez la faire aussi avec un autre poisson. Ça, le thon, comme c'est un peu sec et que on va pouvoir le cuisiner et le faire revenir, c'est quand même un peu sympa à faire en daube. Meilleur que à la poêle. Après, c'est comme on veut et c'est comme on aime surtout. On aura besoin de 750 g de pommes de terre, de 25 cl de vin rouge, de 3 échalotes, de 3 gousses d'ail, de 2 grosse tomate, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, 2 cuillères à soupe de ciboulette ciselée, 20 g de farine et du piment d'Espelette, donc quelques pincées, et puis de l'huile d'olive et bien sûr du sel et du poivre. Côté ingrédients, on aura besoin...
Ustensiles peut-être. Plutôt.
Non, ustensile, oui, ouais. Tu as raison. Parce que les ingrédients, je viens de le dire. Et sur mon papier, j'ai mis ingrédients.
C'est
donc, on va tout leur dire comme ça. Comme quoi, personne. J'arrive à faire des bêtises.
L'erreur est humaine.
L'erreur est humaine. C'est ce que j'étais en train de chercher. Je n'arrivais pas à trouver cette définition. Donc, le matériel, on aura besoin d'un couteau, d'un faitou ou une grosse cocotte, d'un économe, d'un plat ou d'une assiette de présentation, d'un papier absorbant, de 6 cocottes ou d'un grand plat creux pour le service. Moi, j'aime bien les mini cocottes parce que je trouve que ça, ça garde au chaud et puis ça fait une belle présentation et ça sort de l'ordinaire. Voilà, donc ça, c'est dit. On continuera nos recettes, notre recette de pêche de vigne au sirop de verveine. Donc pour cela, on aura besoin de 6 belles pêches de vigne bien fermes. Et puis, on aura besoin de 100 g de sucre semoule et 8 brins de verveine. Côté matériel, on va avoir besoin d'un saladier, de 2 casseroles et d'un couvercle, d'un écumoire, d'une passoire, d'un chinois et de 6 assiettes creuses ou des coupelles un petit peu transparentes, de style des grosses coupes à cocktail. Voilà, ça peut être sympa. Après, vous prenez ce que vous avez, Voilà, c'est faut que ça soit joli à l'œil. Et moi, je dis toujours, quand c'est joli à l'œil, c'est bon dans l'estomac. Voilà.
Pas toujours, mais en tout cas,
avec les bons ingrédients. Avec les bons ingrédients. Voilà. Mais il faut donner envie et que ça soit bien décoré. Ça vous permet, même si vous resservez une autre fois, le lendemain, le même plat, changer de décor, vous allez voir que ça passera tout simplement.
Et puis c'est plus appréciable et ça donne plus envie.
Ben voilà. Alors on mange plus. Non, pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément. Mais c'est plus joli à l'œil. Moi, je reste sur le joli à l'œil. C'est joli, c'est bon dans l'estomac. Avec des bons ingrédients, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, il y a quelques semaines, c'était l'automne. Et je pense que Nathalie, tu as quelque chose à nous dire sur cette saison.
Oui. Parce que l'automne, c'est l'une des 4 saisons, tout le monde le sait. Alors, c'est pas les 4 saisons, c'est Vivaldi, je crois.
Oui.
Donc, c'est l'une des 4 saisons de l'année dans les zones tempérées. L'automne qui suit l'été et qui précède l'hiver. Il existe plusieurs définitions de l'automne. L'astronomique, la météorologique, c'est demi-saison se trouvant entre les saisons chaudes et froides, et calendaire, donc, dont les dates varient selon les pays. Dans l'hémisphère nord, je vais avoir du mal ce soir, je crois. L'automne se situe entre le troisième et le dernier trimestre de l'année. Dans l'hémisphère sud, il se situe entre le premier et le deuxième trimestre de l'année. L'automne se caractérise par une baisse progressive des températures, on l'a vu, et un délai de plus en plus court entre le lever et le coucher du soleil, on l'a vu aussi. Cette saison est notamment marquée par le temps devenant progressivement plus nuageux, pluvieux et venteux, et parfois neigeux en fin de saison. Mais l'automne peut encore donner de belles journées ensoleillées, comme aujourd'hui, tu l'as dit, il y a eu un beau soleil, et douce, notamment en début de saison.
Merci Nathalie, merci. Je pense qu'on a le temps de faire la recette des muffins d'automne. Donc les muffins d'automne, pour la préparation, on va avoir besoin d'environ 15 minutes et une cuisson de 25 minutes. Alors, on va déjà commencer par préchauffer notre four à 200 degrés. Donc, je vous rappelle que 200 degrés, c'est un thermostat 6 et 7. Et puis, pendant que le four est en train de se mettre en chaleur, on va parer les poireaux. On va les parer, les laver et les couper en lamelles.
Paris.
Alors, quand on dit parer, j'en ai parlé de mémoire la semaine dernière. Ah. En fin de compte, parer, c'est enlever la racine.
Ah oui, d'accord. Okay.
C'est enlever la racine et c'est enlever ce qui est abîmé. Voilà, on va parer. À la limite, vous allez, enfin, c'est pas à la limite, vous allez couper en fines lamelles. Donc, dans le, voilà, dans le sens du poireau, hein, c'est en lamelles, en rondelles même. Mais il faut que ça soit très très fin. Si vous avez une mandoline, c'est encore mieux parce qu'on passe à la mandoline. Si vous avez un mixeur, vous pouvez passer dans le mixeur.
Oui.
Voilà, ça ça va relativement vite. On va aussi éplucher et émincer les échalotes. On épluchera les carottes et puis on va les râper. Et puis on, bah tout ça, on va les poêler. Alors pour ça, on va prendre donc une poêle et puis on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans cette poêle et une fois et on va faire revenir les échalotes, les poireaux et les carottes. Tout ça ensemble, ça va faire une jolie julienne. Ça va sentir bon dans la maison et dans votre, dans, surtout dans votre cuisine. Et on va laisser cuire quelques minutes à feu doux. Et puis, si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau et que ça commence à un peu trop dorer, dans ces cas-là, vous allez rajouter un petit peu d'eau. Surtout, vous n'oubliez pas de saler et poivrer, hein, une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre. Je vous rappelle que c'est deux pincées de sel pour une pincée de poivre, en règle générale, mais après, c'est par rapport à votre goût. Et puis, on va prendre une autre casserole. Et dans cette casserole, on va faire fondre le beurre. Alors, il y a cette façon de faire fondre le beurre. Vous pouvez aussi le mettre au micro-ondes. Ça va relativement plus vite. Et ça permet de faire refroidir le beurre plus rapidement aussi. On le laisse refroidir tout doucement. Ça, c'est important. Donc, une fois que votre beurre, il est fondu, on le laisse refroidir dans un saladier. Et quand il est bien froid, dans ce saladier, on va mettre les œufs, donc le beurre et le lait. Et on va mélanger tout ça. Et il faut que ce soit légèrement mousseux. Parce que plus ce sera une petite mousse, meilleur sera votre muffin. Et on cherche quelque chose de léger.
Oui, d'aéré.
D'aéré. Donc, n'hésitez pas à fouetter hein, avec l'œuf, le lait et le beurre. Et important, ne mettez pas votre beurre brûlant dans votre saladier. Ça, il va pas, c'est l'œuf qui ne va pas aimer. En fin de compte, ça va cuire l'œuf. C'est pour ça que je vous dis de bien refroidir. Une fois que vous avez fait ça dans un autre saladier, vous allez mélanger la farine, le sel, la levure. Et puis, quand tout est bien mélangé, et avec le fouet, vous allez, votre préparation que vous avez mélangée, les œufs et beurre, vous allez le rajouter à la farine, au sel et à la levure. Et puis, vous allez mélanger. Alors, vous fouettez, hein, mais comme c'est un peu épais, c'est force et courage, on va dire. S'il y a des petits grumeaux, alors je parle de petits grumeaux, c'est pas bien grave, c'est voilà, moins il y en a, mieux c'est, mais s'il y en a, c'est pas bien grave. Voilà, c'est des muffins, donc c'est quelque chose de simple, on n'a pas besoin de passer la pâte au tamis. Bien, ensuite, quand on a notre préparation, notre pâte qui est faite, on va incorporer les légumes. Pour ça, encore une fois, les légumes, il faut pas qu'ils soient très, très chauds. Il faut vraiment qu'ils soient légèrement tièdes et vous allez les mélanger avec une cuillère en bois petit à petit. Et puis, on va faire pareil avec le parmesan et on va repoivrer. Donc léger, hein, une petite pincée, ça suffira bien. Et on mélangera tout ça progressivement avec une cuillère en bois. Si vous avez une cuillère en métal, vous mettez une cuillère en métal. Mais moi, j'aime bien le bois parce que c'est doux et c'est léger, ça ne coupe pas la pâte. Voilà. Et puis, votre mélange est bien homogène et que vos légumes sont bien enrobés de toute la pâte, vous allez pouvoir les mettre dans vos moules à muffins ou encore dans les cassolettes. Les moules à muffins ou les cassolettes, vous les mettez sur une plaque allant au four avant de les remplir. Ça, c'est important. Ça évite que vous soyez embêté pour les mettre après. Je parle en connaissance de cause. Les moules à muffins ou les cassolettes, vous les remplirez aux trois quarts. Parce que comme on a mis de la levure chimique, ça gonfle. Et comme en plus, on a fait une petite émulsion au niveau de l'œuf et du beurre et des œufs, ça risque de gonfler un petit peu plus. Donc, aux trois quarts, c'est bien. Et puis, vous allez enfourner tout simplement à 20-25 minutes à peu près, à mi-hauteur de votre four. Et puis, par contre, vous allez baisser votre four et vous allez le mettre à 180 degrés. Vous surveillez la cuisson parce qu'on est dans un petit gâteau. Donc, faut pas que ça cuise trop fort. Et puis, je vous rappelle le bon tuyau pour suivre la cuisson. Vous faites ça à peu près aux alentours d'une quinzaine de minutes, 20 minutes. 20 minutes, vous regardez, vous plantez une lame de couteau. Si elle ressort sèche, c'est que c'est cuit. Voilà. Et moi, je vous conseille de servir... Alors, vous pouvez servir les muffins ou chauds ou froids, mais alors avec une petite salade, c'est impeccable. Donc ça, vous pouvez le manger très bien en entrée, mais si vous n'avez pas envie de faire un grand festin, vous mangez ça en plat, tout simplement. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Et après, vous pouvez mettre n'importe quel légume dedans. Hein. Les légumes d'automne, c'est pas que les poireaux, c'est pas que... Mais ça donne un petit goût particulier. Vous pouvez mettre des aubergines. Si moi, j'ai des aubergines encore dans le jardin et des courgettes. Je m'amuse à faire de muffins à tout. Mais par contre, attention, quand vous mettez les courgettes et aubergines, il faut...
Ça rend de l'eau.
Mmh. Donc, il faut passer par les salés pour les égoutter. Mais ça sera, je vous en parlerai une autre fois dans une autre recette. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de vous laisser pour quelques minutes, le temps d'une page de pub et de musicale. À tout de suite.
Babyland à Miland, 34 attractions, la nouveauté 2022, une expérience unique. Bonjour professeur.
Ici le professeur W. Je vous invite à monter à bord de ma nouvelle création, le Pteranodon.
Le professeur W, créateur de dinosaures, vous invite dans son laboratoire pour découvrir sa toute nouvelle invention. Une attraction familiale vous permettant de vous envoler à plus de 30 mètres de haut, tel un véritable ptérodactyle.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Promis, on ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe.
Elle a du venin sur les dents, mais pas de sang sur les mains. On n'est pas si différents quand elle prend ses médicaments. Personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade. Moi, si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital.
On ira voir la mer, quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. On ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe.
On est toujours les gosses qu'on était. J'ai de sérieux doutes sur le jardin d'Éden. La main sur la plaque pour voir ce que ça fait. Et tant pis quand on chante, s'ils écoutent à peine. Elle dit que les médecins sont des menteurs, qu'on devine à la façon dont ils dessinent les cœurs. Qui a raison, qui a tort. Je m'en fous, moi je n'ai plus peur du monstre caché dans son corps. Cap sur la plage, dans le creux de la vague, on chante encore.
On ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, ben nous revoici. Donc, quand on vient de voir la recette des muffins d'automne, eh bien, nous allons poursuivre notre menu par une daube de thon à la tomate. Alors, je vous rappelle les ingrédients. Comme ça sera plus simple pour vous. On a besoin d'un kilo de chair de thon frais, de 750 grammes de pommes de terre, de 25 centilitres de vin rouge, de 3 échalotes, 3 gousses d'ail, 3 tomates, 3 grosses tomates même, 3 cuillères à soupe de concentré de tomates, 2 cuillères à soupe de ciboulette ciselée, 20 grammes de farine, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et puis, au niveau matériel, on aura besoin d'un couteau, d'un faitout ou d'une grosse cocotte, d'un économe, d'un plat ou d'une assiette. Et puis, on aura besoin d'un papier absorbant et de 6 petites cocottes, 6 mini-cocottes ou d'un grand plat creux. On aura aussi besoin d'un sac de congélation. Je viens d'y penser, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais je vous le dis là maintenant, c'est en repensant à la recette que je vais vous présenter. Donc déjà, dans un premier temps, on va découper la chair de thon en gros morceaux. De façon qu'il y ait peu d'arêtes, hein, puisqu'on a une arête centrale. Donc si en plus vous avez demandé à votre poissonnier de vous faire des filets dans le thon, c'est génial, mais en général c'est des darmes de thon, c'est des tranches de thon, donc surtout enlever les arêtes centrales, c'est plus sympa à manger. On va les assaisonner de poivre et de sel, hein, comme ça, vite fait, rapidement. Et puis, on va les enfariner, on va dire. On va donc mettre la farine. Vous vous souvenez un petit peu de la technique que je vous avais avant les vacances, je vous en avais parlé. Donc c'est simple, vous allez mettre votre thon dans un sac style de congélation et puis vous allez mettre votre farine. Donc pour ça, on a dit qu'on avait besoin de 20 grammes de farine, ça suffit amplement. Et vous fermez l'ensemble, donc farine et thon à l'intérieur, vous fermez bien votre sac et vous le secouez. Et là, votre thon, il est fariné à souhait. Il n'y a pas besoin de voir plus et de moins et ça évite que ça fasse du gâchis de farine. Après, votre sac, vous pouvez vous jeter s'il reste des résidus de farine, surtout vous l'achetez parce qu'on ne réutilise pas.
Oui, bien sûr.
Vous pouvez rincer votre sac et le réutiliser après. Hein, donc à partir du moment où il est bien séché, il n'y a pas de souci. Mais pensez à récupérer ou un sac. Mais style congélation, c'est bien parce que comme ça, il y a des fermetures qui sont faites exprès maintenant. Ils font ça vraiment très très bien. Donc une fois que vous avez fait votre thon fariné, vous allez prendre donc une cocotte et dedans, vous allez mettre un filet d'huile d'olive. Et on va faire chauffer à feu un petit peu bien chaud, même vif, on va dire. Quand l'huile est très très est très chaude, eh ben vous allez faire dorer votre thon 5 minutes. Alors moi j'ai mis 5 minutes, ça dépend de l'épaisseur de votre thon, mais en général c'est des bons morceaux. Donc 5 minutes à feu vif et vous les retournez à mi-cuisson. Donc en fin de compte c'est 2 minutes et demie et 2 minutes et demie de chaque côté. Voilà. Bon, alors ne les remuez pas avec une cuillère en bois, d'accord ? On prend une pince et on retourne gentiment les poissons. Donc, vous les laissez dorer, il faut vraiment que ça soit un petit peu croustillant. C'est pour ça qu'on a mis de la farine, c'est pour que ça soit légèrement croustillant. Et dans la daube, on va le sentir, ce petit croustillant dans la daube. Une fois que vous avez bien cuit de deux côtés, bien doré vos deux côtés de thon, vous allez les prendre donc avec un écumoire. Et vous les mettez sur un papier absorbant. Donc, ça évite qu'il y ait trop de gras. Ça sert à rien. Et puis, après, et vous les mettez de côté. Donc, on va les réutiliser, mais après. Donc, on les laisse de côté. Et puis, on va émincer les échalotes, l'ail, le pelé. Et on va les émincer aussi. Donc, je vous rappelle, pour émincer l'ail, vous l'épluchez. Tant bien que mal, mais le mieux c'est d'écraser votre gousse d'ail sous un verre, et après vous n'avez plus qu'à enlever l'écorce, parce que ça va vite hein, quand elle est bien sèche, l'épluchure s'enlève très vite, et puis après vous n'avez plus qu'à l'émincer, et c'est plus rapide que de l'émincer rondelle par rondelle et tranche par tranche. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez simple et rapide. Et puis vous allez couper les tomates, donc vous les coupez en petits morceaux, vos grosses tomates hein, vous les coupez en petits morceaux. Si vous avez trouvé pas des grosses tomates, mais des petites, vous les coupez quand même. L'important, c'est que le jus reste. Faut garder ce jus. On va en avoir besoin dans le faitout. On va ajouter donc dans le faitout où on a mis un filet de, donc dans le même faitout hein, qu'on a utilisé tout à l'heure. Et dans lequel on a cuit le thon. On a snacké même. C'est maintenant on dit snacker. Donc faire revenir, c'est snacker. On va donc mettre un filet d'huile et on va cuire les échalotes émincées et l'ail pelé et émincé. Et puis les tomates, on va les faire cuire et faire revenir pendant 5 minutes. À feu moyen. Là, on est à feu moyen parce que les échalotes, ça reste fragile. Ça va très vite à griller. Donc, et l'ail, pareil. Donc là, déjà, vous avez une odeur, un parfum de Provence qui arrive. J'ai les papilles. Bien, alors, on a été légèrement coupé pendant quelques instants. Hein. Ça a duré 5-6 minutes. Je suis désolée, mais je pense que c'est mes papilles qui n'ont pas supporté le parfum de Provence. Donc, on était sur la daube de thon à la tomate et on était en train de faire revenir l'échalote à l'ail et puis... les tomates, hein, donc on ne parlera pas de mes papilles parce qu'on a peur que ça recoupe encore une fois. Voilà, donc la technique, hein, vous savez, il y a des fois, on n'est pas maître. À cette préparation, on va rajouter le concentré de tomates. Vous allez bien mélanger. Et une fois que vous avez mélangé, on va déglacer avec le vin rouge. On mélange avec une cuillère en bois. C'est mieux dans le faitout, ça évite de le bousiller, de bousiller le fond. Et puis c'est plus sympa avec une cuillère en bois, ça fait moins de bruit entre autres. C'est mieux. On déglace avec le vin rouge, on sale et puis on va rajouter le piment d'Espelette. Donc vous y allez progressivement, goûtez bien votre sauce pour savoir si c'est à votre convenance, parce que on a des piments qui d'Espelette qui sont plus ou moins forts. Donc une fois que vous avez bien remué tout ça, vous allez remettre les morceaux de thon que vous aviez mis sur le papier absorbant. Donc vous les remettez dans le faitout et puis vous allez couvrir et faire cuire pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, il vous manque les pommes de terre, donc on va les éplucher. Les rincer bien évidemment et puis on va les faire cuire 20 minutes à la vapeur. Alors moi je mets 20 minutes, mais attention, il y a certaines pommes de terre qui vont être moins vite à cuire et certaines vont être plus vite à cuire, donc c'est à vous de regarder un petit peu vos pommes de terre, où est-ce qu'elles en sont. Et puis de planter encore mon fameux tout couteau dans la pomme de terre. Si elle ne rentre pas facilement, c'est qu'elle n'est pas cuite, donc on continue à la vapeur. Alors ça peut être aussi à la vapeur, mais ça peut être aussi à l'eau, hein, tout simplement. Ça, c'est suivant ce que vous avez à la maison. Tout le monde n'a pas de cuit-vapeur. Et puis, vous voyez, là, on a 20 minutes et 20 minutes. 20 minutes pour le thon. Et puis un petit peu en daube, ben, à la provençale, avec de la tomate, de l'échalote, de l'ail. C'est vraiment les papilles. Moi, elles sont.
Attention.
Ah oui, non, on n'en parle pas. On ne parle pas des papilles. Donc on va prendre nos mini cocottes. On va mettre dans nos mini cocottes déjà dans un premier temps le thon, et puis avec la sauce on va saucer, et par dessus on mettra les pommes vapeur, et puis avant de refermer on va parsemer de ciboulettes ciselées. Voilà. Et là, vous avez votre plat. S'il doit être maintenu au chaud, ben, c'est bien, vous refermez les mini-cocottes et vous les maintenez au four tranquillement. Sinon, vous les servez tout de suite. Voilà, c'est encore un plat qui est facile, belle présentation. Et puis alors, vous allez voir, vous allez vous régaler. Et le poisson, c'est bon. c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour plein de choses.
C'est plein d'oméga-3.
Voilà, c'est plein d'oméga-3. Nathalie, peut-être quelque chose sur le piment d'Espelette qu'on ne connaît pas forcément bien.
Alors, le piment d'Espelette, il est venu du Mexique. C'est une variété de piment qui a été introduite au Pays Basque au XVIe siècle par le navigateur espagnol Juan Sebastián Elcano, originaire de Guétaria.
Olé.
Olé. La plante est d'abord utilisée en médecine, puis très vite comme suqué d'ané du poivre noir. Je ne connais pas ce mot, je vais chercher dans le dictionnaire. Condiment et conservateur de viande. En 1650, les paysans commencent à cultiver des piments, les pipera en basque, à Espelette. De récolte en récolte jusqu'à aujourd'hui, ils sélectionnent la semence et nomment populairement leur variété de plants de Capsicum annuum gorilla. Je ne sais pas si mon accent est pourri, mais c'est pas grave. Les maisons émergeaient...
Tu ne peux pas parler basque. Tout le temps. Hein.
Pourtant, j'ai des origines espagnoles.
Non, mais espagnol, c'est pas basque. Attention,
oui, mais
ne mélangeons pas.
Voilà, rouler les R, c'est un peu... Alors, les maisons émergeaient ça et là, des arbres, et partout sur leurs balcons de bois séchaient des citrouilles jaunes d'or, les gerbes de haricots roses, partout sur leurs murs s'étalaient comme de beaux chapelets de corail, des guirlandes de piment rouge. Donc toutes ces choses du vieux sol nourricier amassées ainsi, suivant l'usage millénaire en prévision des mois assombris où la chaleur s'en va. Donc cette description se trouve dans Ramuncho de Pierre Loti, qui est paru en 1897. Aujourd'hui, on voit ainsi, dans de nombreux cafés et restaurants, des cordes de piment en train de sécher au plafond, occupant parfois tout l'espace disponible. À partir du mois de septembre, le village d'Espelette devient pittoresque avec des guirlandes de piment sur les façades et les balcons des maisons. Toutefois, ce n'est qu'à partir de 1983, avec la naissance d'une coopérative de producteurs de piment d'Espelette, que la production se professionnalise.
Merci Nathalie pour cette leçon d'histoire. Moi, je vous conseille d'aller à Espelette parce que vraiment, les gens, ils sont charmants. Il y a sur la place d'Espelette, sur la grande place, il y a plein de petits restos où vous pouvez manger les spécialités d'Espelette, mais du Pays Basque. Et vraiment, ces guirlandes, on se croirait à Noël. Moi, j'ai des guirlandes rouges comme ça, je trouve que... Et puis, c'est décoré, tout ce rouge, toutes ces guirlandes, parce qu'il n'y en a pas que dans les restaurants et dans les vitrines. Il y en a sur toutes les murs de maisons.
Oui, c'est ça.
C'est assez surprenant, quoi. Et bon, là, on dit en septembre, mais moi, de mémoire, j'y suis allée il y a un an... Non, je dis des bêtises. 3 ans, maintenant. Et c'était l'été. Et puis ça avait un parfum vraiment super, super agréable. C'était super sympa. Voilà. Bah écoutez, je vous propose qu'on se fasse une petite pause et puis on se retrouve pour le dessert. À tout de suite.
Encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en x2, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses.
sûre de mon coup. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, âme et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher. Dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide. Tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent. Et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais, jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on me donne tous notre avis, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois 2. Mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire. Je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran. Et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, âme et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Tu peux pas t'en empêcher. Dans un objet. J'écoute les notes en fois deux. Mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire. Je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. C'est pas ma faute. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, haine et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher, dans un objet.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici et nous allons faire ce dessert. Je vous rappelle qu'on a vu les muffins d'automne et puis la daube de thon à la tomate. On va finir par un dessert un petit peu léger, un peu sympa, qu'on voit pas forcément souvent sur les tables. Alors là, on a pris de la pêche de vigne, mais vous pourrez prendre de la poire, puisqu'on arrive à la poire ou à la pomme. Bon, ça mettra plus de temps à cuire. Là, au niveau de la pêche de vigne au sirop de verveigne. Je vous rappelle un petit peu les ingrédients. Alors, on va avoir besoin de 6 belles pêches de vigne bien fermes. Et puis, on va avoir besoin de 100 g de sucre semoule. Et puis, 8 brins de verveine. Pour les ingrédients, on va avoir besoin...
Les ustensiles.
Je recommence comme au départ. On va avoir besoin d'un saladier, de 2 casseroles et d'un couvercle, d'un écumoir, d'une passoire, d'un chinois et de 6 assiettes creuse et ou des coupes transparentes. Voilà pour le matériel. Pour la préparation, vous aurez environ 20 minutes de son nécessaire pour la préparation. On va avoir une heure de frigo. Et puis, on va avoir 10 minutes de cuisson. Donc, vous voyez, c'est pas très, très compliqué. Une heure de frigo, c'est juste pour que tout soit froid quand on va le servir. C'est quand même plus agréable. Voilà. Alors, on va déjà préparer, vous allez déjà préparer un saladier d'eau froide. Ça, c'est important puisqu'on va cuire les pêches de vigne. Et que pour couper la cuisson, on va les tremper dans l'eau froide. Donc, on va verser de l'eau dans une casserole. On va remettre donc de l'eau dans... Donc, on a notre saladier avec l'eau froide et à côté, on va prendre une casserole avec de l'eau et on va porter à ébullition. Une fois que l'eau, elle bout, on va mettre délicatement les pêches. Alors, je dis délicatement parce que la pêche en elle-même est fragile. Donc, bien évidemment, on n'a pas enlevé la peau et on n'a pas dénoyauté. Elle est entière. Donc, on va délicatement mettre les... Donc, vous mettez ça avec un écumoire. Hein, comme ça, vous mettez votre pêche de vigne dans l'écumoire. Et une à une, vous allez les mettre dans l'eau. Et vous allez compter 2 minutes. Au bout de 2 minutes, vous allez les retourner... Vous allez les retirer toujours avec votre écumoire et vous allez les plonger dans le fameux saladier d'eau froide. Comme ça, ça arrête la cuisson. Ça évite que ça fasse de la charpille, en fin de compte. Et puis, dans une passoire, vous allez les égoutter. Donc, vous les mettez délicatement toujours dans une passoire, vous les égouttez. Et vous allez les éplucher. Donc, on les épluche et on va enlever, on va les couper en quartier et on va jeter le noyau. Le noyau, on n'en a pas besoin. Voilà, donc en quartier, hein, donc, vous mettez en 8, ça suffit, hein, tout dépend de la grosseur de la pêche. Voilà, donc ça fait des jolis quartiers avec des couleurs un peu jaunes, rouges, c'est assez sympa. Nous allons préparer le sirop de verveine. Pour cela, on va avoir besoin de 50 centilitres d'eau qu'on va mettre dans une casserole, ainsi que le sucre, les 100 grammes de sucre semoule. Et puis, on va mettre dedans les 2 brins de verveine et on va porter à ébullition. Tranquillement, gentiment. Dès que l'eau elle bout, vous allez arrêter l'eau. Et vous allez y ajouter les morceaux de pêche de vigne et couvrir. Et vous allez laisser infuser pendant 20 minutes. 30 minutes. Merci, Nathan. Et des fois, c'est... Alors, je dirais que plus vous allez laisser infuser, mieux ce sera. Mais attention, on est dans de l'eau bouillie. Donc, elles vont recuire. Là,
oui. Ah oui,
donc
d'accord.
C'est pour ça que 30 minutes, c'est correct. Si c'est des petites pêches, vous les mettrez moins longtemps. Voilà. Mais vous allez voir, elles vont pas changer de couleur, mais vous allez le sentir et voilà, vous laissez infuser et puis vous verrez ce que ça donne. Voilà, moi je fais au pifomètre, je regarde pas forcément ma minute, donc 20 minutes c'est bien, 30 c'est encore mieux. Ensuite, vous allez filtrer le sirop à l'aide d'un chinois et le mettre, au frigo pendant 1 heure. En fin de compte, c'est l'histoire de refroidir tranquillement. Et puis, au moment du dressage, déjà, vous voyez, donc on est déjà, c'est rapide, hein, il y a juste une heure au frigo, mais pendant l'heure, vous mettez la table, vous discutez avec vos convives, vous éclatez, vous trouverez toujours quelque chose à faire. Donc pour le dressage, vous allez prendre les assiettes creuses ou alors des coupelles transparentes. Vous allez déposer les quartiers de pêche de vigne dans la coupe ou dans l'assiette et vous allez verser le sirop par-dessus. Voilà. Et comme on l'a filtré, vous allez voir qu'on va avoir une transparence au niveau du sirop et avec avec les pêches, ça va faire un super décor. Et vous décorez avec une feuille de verveine. Et puis voilà. Et puis avant de déguster, moi je rajoute un petit coulis de fruits rouges ou un coulis de framboise. Alors, c'est peut-être pas la saison, mais moi, comme j'ai gardé mes framboises au congélateur, je me fais des petits coulis l'hiver. C'est assez sympa. Et je le verse vraiment délicatement par-dessus. Et ça fait juste quelque chose de sympa. Voilà. Donc, la décoration, tout y est. Il n'y a plus qu'à manger, quoi, en fin de compte. Et encore une fois, c'est une recette vraiment très facile.
J'ai une question.
Oui.
La verveine, où est-ce qu'on la trouve ?
Eh bien, justement, c'est toi qui vas nous en parler. Ouais. Parce que moi, je sais où je la trouve, dans les jardins. Et c'est un arbre. Et en ce moment, on taille.
Oui.
Et on est en pleine taille de, justement, cette verveine.
D'accord.
Et là, vous allez pouvoir la faire sécher. Moi, j'en ai encore de l'année dernière qui sèche dans ma véranda. Et je prends des petites feuilles de temps en temps et je fais de la glace à la verveine. Mmh. Et je fais je mets ça dans les infusions. Voilà, toute l'année, je m'en sers puisqu'il m'en reste encore de l'année dernière. Mais ça se fait sécher, ça se trouve dans les jardins, les arbres à verveine. Voilà.
C'est maintenant, juste savoir la reconnaître, en fait.
Ben, vous savez, il y a mon ami Google, Gloog.
C'est vrai.
Mon ami Gloog, il montre des photos et c'est très bien. C'est très, très bien. Voilà. Donc, tu peux peut-être nous parler de la pêche de vigne qui est particulière et puis surtout de la verveine dont tu viens de poser la question.
Tout à fait. Alors, la pêche de vigne, c'est une variété de pêche, mais plutôt ancienne. Elle est devenue rare, d'autant plus qu'elle pousse dans une région de France bien particulière, en Poitou-Charentes, et plus particulièrement au sud du département des Deux-Sèvres. Subsiste encore une variété de pêche appelée la pêche de vigne, dont on a fait une recette ce soir. Jusque dans les années 1950-1960, la région était viticole. Chaque ferme possédait une vigne pour produire son vin du terroir, et ce pour sa consommation personnelle. Dans ces vignes poussaient des pêchers sans aucune taille ni traitement. Ces arbres produisaient des fruits de taille moyenne, à chair blanche, très particulièrement savoureuse. Aujourd'hui, vous pouvez encore en trouver sur les marchés.
C'est ça. Ça m'a donné cette envie de faire cette recette parce que j'en ai trouvé sur le marché.
Ouais.
Donc je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose en plus qu'on voit pas souvent et ça change un petit peu de la pêche. Mais bon, si vous trouvez pas de la pêche de vigne, vous prenez une autre pêche. C'est voilà.
Oui.
C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Alors, pour la verveine, dis-nous.
Eh oui, en ce qui concerne les verveines, ce sont des plantes de la famille des verbenacées. Ce sont des plantes aromatiques ou ornementales. Les différentes espèces sont classées au moins dans trois genres différents. Des verveines sont utilisées en cosmétique, d'autres sont consommées en infusion digestive, sous forme de tisane, parfois additionnée de menthe. Toutefois, toutes ces plantes nommées verveines ne sont pas comestibles et toutes n'ont pas les mêmes vertus.
Donc vous faites attention, après vous avez de la verveine citronnée aussi, et j'en ai aussi. Moi j'ai quelqu'un qui m'appelle en me disant « Anne, je taille ma verveine, est-ce que tu en veux ?» Ben, je dis oui à chaque fois.
D'accord.
Voilà, donc mais ça on en trouve dans certains jardins, voilà.
Je ne crois pas que j'en ai, moi.
Ah, ça a un parfum vraiment super agréable, hein. Tiens, un jour je t'en ramènerai comme c'est ça, au moins tu en auras. Oui. Tu en auras, surtout que la personne va pas tarder, et d'ailleurs je lui fais un petit coucou. Sophie, si tu nous écoutes, c'est à toi que je parle, n'oublie pas ma verveine pour la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a juste le temps de vous donner un petit bonus ou pas. Ah ben non, alors pas un bonus. On
le
fait
maître du temps.
On fait une pause parce que Théo a besoin d'une pause pour s'aérer certainement. Et on se retrouve tout de suite.
Tu vois ce soleil qui brûle ton visage et ces sourires qui courent sur la plage. Tout s'en ira comme ce voilier qui part, qui traverse le ciel pour prendre le large. Tout s'en ira, les hivers et le vin. Tout s'en ira, les vipères et les gens. Les hirondelles qui auront fait les printemps. Et les deux ailes dans mon dos, car tu m'aimes tant. Tout s'en ira, emmène-toi et moi. Tout s'en ira, trop haut, d'ici là, suis-moi. Tout s'en ira, oh, même toi et moi. Tout s'en ira, demain, mais demain, c'est loin. Demain, demain, demain.
Regarde le ciel comme c'est beau quand il gronde. Tout s'en ira comme la nuit reprend les ombres. Et ce voilier et les tours et le monde. Tout s'en ira, les histoires et les contes. Tout s'en ira, les retards et les montres. Les hirondelles qui ne feront plus rien. Et mes deux ailes envolées, je les aimais bien. Tout s'en ira, même toi et moi. Tout s'en ira, trop tôt, d'ici là, suis-moi. Tout s'en ira, oh, même toi et moi. Tout s'en ira, demain, mais demain c'est loin. Demain, demain, demain. Viajar en el mundo, quiero olvidar que él va a cambiar. Tico, tico, puedo disfrutar de todo, porque todo se irá, todo se irá. Tico, tico, vamos a viajar en el mundo, quiero olvidar que él va a cambiar. Tico, tico, puedo disfrutar de todo, porque todo se irá, todo se irá. Demain, demain, demain.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de notre émission, pratiquement. Mais j'avais envie de vous faire partager un bonus que j'ai, qui va bien avec notre dessert et qui ira bien avec beaucoup, beaucoup d'autres desserts. Allez, on va se faire plaisir et satisfaire un petit peu tous les gourmands. Il s'agit de la chantilly. Donc, c'est une recette qui est simple et rapide. Il faut juste penser à mettre la crème liquide au frigo ainsi, et les ustensiles qui vont avec. Donc si vous pouvez mettre le fouet avec et puis le saladier, c'est encore mieux. Voilà, comme ça tout est froid. Si vous n'avez pas mis au frigo parce que c'est à l'arrache, vous le mettez 10 minutes au congélateur. Voilà, 10 minutes au congélateur, la crème et puis les ustensiles. Pour cette recette, on va avoir besoin de 50 centilitres de crème liquide et de 35 grammes de sucre glace. On sortira donc la crème liquide au moment de faire la chantilly et puis on va la verser, donc on sort du congélateur si on l'a mis au congélateur, mais le mieux c'est de le mettre au frigo pendant plusieurs heures. On met la crème dans le saladier qui lui aussi était au frigo, c'est mieux, et on va ajouter les 35 grammes de sucre glace. Et puis on va prendre un batteur parce que c'est mieux avec un batteur électrique style fouet électrique, hein. Vous faites attention que votre fouet reste bien à l'intérieur de la préparation, parce que si vous sortez votre fouet alors qu'il est en état de marche, vous allez moucheter votre cuisine. C'est une mise en garde que je dis souvent parce que de temps en temps, ça arrive encore. Voilà, même moi, ça m'est encore arrivé. J'ai oublié d'appuyer le bouton arrêt et j'ai sorti le fouet et ça m'a éclaboussé. J'étais enchantée ravie. Bien, et vous allez faire commencer donc à battre votre crème et votre sucre à petite vitesse, et plus vous allez aller dans le temps et plus vous allez augmenter. Donc on part du plus lent en vitesse au plus rapide progressivement. En général, toutes les 30 secondes environ, vous allez changer de vitesse. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir votre crème, elle va mousser dans un premier temps et après elle va devenir compacte. Et bien voilà, votre mousse au bout de 5 minutes de battage, elle est terminée, de fouet électrique, elle est terminée. Et ça, vous allez la laisser reposer pendant 2 heures au frigo minimum.
Pas la manger tout de suite.
Ah. Enfin, j'aime bien
résister,
Nathalie.
Faut résister.
Alors, vous pouvez la manger de suite puisqu'elle est froide, mais elle sera meilleure au bout de 2 heures.
Elle retombe pas.
Ah non, c'est pas de la bombe. La bombe, elle va redescendre.
C'est ça.
Celle-là, elle est pleine d'air puisque vous l'avez fouettée. Donc, plus vous allez la fouetter, plus elle va se tenir. Mais attention, si vous la fouettez trop, ça va devenir du beurre. On est d'accord, ouais. On revient à ce qu'on disait la semaine dernière, non ? Ou il y a 15 jours, il me semble bien. Voilà, donc, et puis vous sortez au moment de la servir. Vous pouvez l'agrémenter avec vos pêches de vigne au sirop de verveine, ça ira super bien. Si vous voulez rajouter un petit peu de vanille dans votre chantilly. Vous pouvez rajouter ou un sachet de sucre vanillé ou de l'extrait de vanille, quelques gouttes, et vous allez la parfumer. Si vous avez de l'extrait de rose, mettez-en dedans. Ça peut aussi faire une chantilly à la rose. Enfin, amusez-vous avec cette chantilly avant de la faire, pas au moment de la servir.
Oui, d'accord.
Au moment du mélange, de fouetter. Voilà, faites toutes ces recettes avec celles qu'on a vues, celles qu'on a vues il y a quelques semaines. Pensez à refaire avec vos enfants. Et puis, ou vos amis, ou les deux, voilà, c'est partagé, cette cuisine, elle est à partager à tout va. N'hésitez pas à en parler autour de vous en disant, j'ai réalisé des recettes super sympas et faciles. Voilà, il y en a marre, je vais faire un coup de gueule, il y en a marre de la malbouffe. Voilà, prenez du temps.
Jean-Pierre Coff sort de ce corps.
Non, mais prenez du temps, ça, ça prend pas beaucoup de temps de faire à manger. Et c'est tellement convivial et ça resserre les liens de faire à manger ensemble. Voilà, donc pensez à ça. Je vous laisse sur cette note philosophique, on va dire. Je vous souhaite une excellente soirée parce qu'on arrive au bout et si on ne finit pas à l'heure, Théo va me tirer les oreilles. Et même si j'ai des petites oreilles, j'ai pas envie qu'elles deviennent grandes. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Prenez soin de vous, on vous embrasse tous très fort et on vous souhaite une très bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne nuit.